Bien, donc nous abordons aujourd'hui le commentaire, la mise en place donc de la réflexion sur le Trattato Secondo, hein, du Trattato circa del Reggimento e Governo della Città di Firenze. Donc vous rappelez les éléments de ce Trattato Secondo. Donc l'idée est que après avoir dans le premier traité mis en place les raisonnements généraux sur qu'est-ce que c'est un bon gouvernement, qu'est-ce que c'est le meilleur des gouvernements en général, mais qu'est-ce que c'est le meilleur en particulier dans la cité de Florence. Et là, on va être sur le mauvais gouvernement, hein, le mauvais gouvernement, qui est le gouvernement du tyran. Et là, il y a une théorisation qui est issue de la tradition thomiste, qui est il governo di uno, quando è cattivo, è pessimo. Hein? Et là, notre frère Jérôme spécifie un point important sur lequel on va s'attarder un tout petit peu. Massime, hein, massime il governo di quello che è di cittadino è fatto tiranno. Hein, donc là, il ajoute une nuance dans l'analyse, c'est-à-dire le pire des régimes, le pire des gouvernements, c'est le gouvernement tyrannique. Et le pire des gouvernements tyranniques, c'est le gouvernement d'un tyran qui, avant d'être tyran, était un cittadino. Hein? Donc voilà le point de départ. Hein? Le point de départ de ce deuxième traité, qui est donc sur la tyrannie comme pire du gouvernement, et donc la question de... la question de tous les mots, hein, de tous les maux que va entraîner le tyran, qui va être le second chapitre. Alors, dans le premier chapitre, hein, donc vous avez cet énoncé non niente di meno, come è perfetto e più stabile quando è buono, hein, donc, le bon gouvernement, c'est le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement d'un seul. Il y a les trois formes de gouvernement peuvent être bonnes, mais la meilleure des formes, c'est le gouvernement d'un seul. Et si le 1 qui dirige, le roi, est bon, cette forme est la plus parfaite, hein, est parfaite, c'est la plus stable, etc. Mais inversement, quand ce 1 qui dirige est injuste et méchant, eh bien, c'est le pire de tous les mauvais gouvernements. Hein. Pire que la mauvaise forme du gouvernement de peu ou que la mauvaise forme du gouvernement de beaucoup. Ouais. Là, c'est pas très, hein, on l'avait vu déjà la dernière fois, c'est pas très dans l'orthodoxie thomiste, hein, cette remarque-là. Alors les raisons, donc, c'est que évidemment, come il male è contrario al bene, così il pessimo è contrario allo ottimo. Hein? Et la virtù unita è più forte che quando ella è dispersa. Et donc là, la virtù est une virtù négative, évidemment, mais cette virtù négative, elle est plus forte. Donc sa négativité est plus forte. Hein, quand elle est précisément unie en un seul, plutôt que quand elle est dans un gouvernement de peu, où voilà, ils se disputent entre eux, donc la mauvaiseté du gouvernement se dilue, dit-il. Là, il est vraiment, là, il fait quand même des entorses assez grandes à l'orthodoxie thémiste. Hein, et enfin, troisième raison, et là, il va falloir développer un tout petit peu. La troisième raison qui fait que ce gouvernement d'un seul, quand ce seul est mauvais, est le pire de tous les mauvais gouvernements, eh bien c'est que sono sempre più i cattivi che i buoni, e ogni simile ama il suo simile, e donc tutti i cattivi uomini cercano di unirsi a lui, massime quelli che desiderano di essere premiati e onorati. Molti ancora si uniscono per timore, e quegli uomini, ma che amano le cose terrene o per timore o per amore li fanno coda, e quelli che sono buoni ma non in tutto perfetti per timore seguitano, e trovandosi pochi uomini perfetti, anzi quasi niuno, tutta la virtù del governo si unisce in uno, hein? E come cette vertu, c'est une vertu négative, una specie di... c'est comme ça, progression du mal, la même façon qu'on avait vu dans les prophéties, cette progression possible du bien. Toute la vertu sera affluence, et donc toute cette vertu se répandra dans l'Italie, de l'Italie à l'ensemble de la communauté chrétienne, de la communauté chrétienne au monde, etc. Là, il y a un très mauvais qui dirige, et à ce moment-là, les mauvais se mettent avec lui, les moitiés mauvais aussi, les bons mais pas trop bons, ils ont peur, les bons très bons, il n'y en a pas, donc voilà, quasi nul. Et là, il y a une thèse intéressante, là, hein, puisqu'il explique très clairement. La thèse, « Sono sempre più gli cattivi che gli buoni », thèse qui apparaît exactement dans la même terminologie deux fois dans les sermons sur Agé. Hein, deux fois dans les sermons sur Agé. Et exactement la même. Hein, simplement, c'est au lieu d'être li cattivi, l'article est i. Sono sempre più i cattivi che li buoni. Donc, et previ che sopraggero, ici, sono sempre più li cattivi che li buoni. Alors, cette thèse n'est pas une thèse théologiquement juste, c'est une thèse politiquement juste. C'est assez important de voir la différence. Parce que, ou plutôt, c'est une thèse politiquement juste qui ne remet pas en cause la thèse théologique suivant laquelle les hommes sont inclinés vers le bien. Tous les hommes sont inclinés vers le bien. La thèse de, disons, l'inclination naturelle des hommes au bien, inclinati al bene, l'idée que c'est appetito naturale dell'uomo, hein, cette appétence vers le bien, cette inclination, cette appétence vers le bien, c'est l'appétit naturel de l'homme. C'est important parce que on va retrouver ce type de définition dans les textes, en particulier de Francesco Guicciardini. Hein. On va retrouver dans les ricordi, en particulier, nettement exprimés. Alors, Savonarole, évidemment, exprime très clairement et très sans aucune hésitation la thèse de l'appétit naturel de l'homme vers le bien, hein. L'appétit au bien, vers le bien. Et un des moments où il l'explicite est un passage intéressant dans la mesure où il est dans un des sermons sur l'Exode. Et la date, évidemment, vous faire comprendre dans quelle situation il est au moment où il prononce ce sermon sur l'Exode. C'est le sermon du 2 mars 1498. Hein, donc on est vraiment... dans un moment de montée des tensions à Florence, on est très près du dénouement final, etc. Et à ce moment-là, le texte donc prononcé par Savonarole, c'est « Appetisce l'uomo appetisce. Appetisce il bene ad ogni modo. E non può fare che non gli piaccia, che non gli piaccia. Et il reprend un tout petit peu, un petit peu après, donc dans le même sermon. Questo è appetito naturale dell'uomo. Donc voilà, sermon Esodo. C'est le sixième sermon de mars 98. Donc, elle est donnée, donc, comme vous le comprenez, simplement à l'énoncé de la date, à un moment particulièrement crucial pour la politique, pour la situation politique florentine. Il y a déjà l'offensive des ennemis de Savonarole est déjà en cours et elle amènera peu après sa chute. Donc au fond, on peut penser que cette réponse-là, qu'il s'agit là avec cette affirmation d'une thèse théologiquement juste, hein, qu'il s'agit là d'une question implicite, voire explicite, de ses partisans. Hein. Est-ce qu'on peut penser que nos ennemis, par ailleurs, vous savez que dans la terminologie savonarolienne, hein, c'est vraiment la terminologie morale, hein, qui prend le dessus pour désigner les ennemis. C'est-à-dire que quand il les appelle avec le nom qu'utilisent les Florentins, gli arrabbiati, il le fait en précisant « Moi, je vous appelle pas comme ça, je vous appelle cattivi, cattivi uomini ou cattivi tout court. » Et quand il s'agit de religieux, il les appelle « itepidi », hein, avec cette dénomination qui vient de l'Apocalypse. Hein, voilà. Alors, est-ce que ces cattivi qui s'opposent à une action voulue par Dieu possèdent quand même cet appétit au naturel? Et bien la réponse théologique est sans appel, il n'y a pas de doute, il y a même un développement sur, de toute façon, même les damnés dans l'enfer, quelque chose de cette appétence naturelle au bien leur reste. C'est-à-dire ça qui les fait souffrir, parce que, voilà, hein, ce qu'ils désireraient au fond, hein, l'âme damnée continue à savoir ce qu'elle pourrait désirer, parce qu'au fond, l'âme damnée pourrait être, mettons, sadomasochiste et se trouver très bien en enfer, se faire faire des trucs invraisemblables. Non, pas du tout, parce qu'elle a l'appétence au bien. L'appétit au naturel, ben. Donc, ce pauvre âme damnée. Donc même elle l'a. Alors, simplement, certes, même ceux qui sont confirmati nel male, même ceux qui sont damnés ont cet appetito naturale al bene, mais évidemment, la réponse est bien différente quand on se place du point de vue de la politique. Hein? L'appétit naturel présent en chaque homme ne signifie en aucun cas qu'il n'y ait pas des hommes méchants, des hommes qui choisissent de faire le mal. Rappelez-vous, le tout début du Trattato Primo, hein, et l'homme naturel est libero arbitrio. Donc ils peuvent choisir de faire le mal. Dieu, parce que Dieu nous a donné cette possibilité de choisir de faire le mal. Et donc là, vous avez l'expression de sa thèse politique. Hein, sa thèse politique, c'est bien. Sono più i cattivi che li buoni, dès lors qu'on est dans le domaine du politique, dès lors qu'on est dans le domaine du stato, dans tous les sens du stato, de la situation personnelle à l'état, hein, et della roba, hein, des biens. Quand on est là, il n'y a pas de doute, sono sempre più i cattivi che i buoni. Vous ne serez pas étonné, hein, de trouver une formulation exactement semblable dans au moins un des ricordi de Francesco Guicciardini, qui dit ça, sono sempre più i cattivi che i buoni. Hein, plus à Dieu que ça ne fut pas vrai, mais voilà, ça l'est. Hein, les méchants sont toujours plus nombreux que les bons. Massime quando va interesse di roba o di Stato. Hein, massime quando va interesse di roba o di Stato. Donc là, en particulier quand sont en jeu des intérêts de situation ou d'État, là, on peut hésiter sur le sens à donner à Stato là. Leur, roba, là, il n'y a pas de doute. Hein. C'est les possessions, l'argent, les possessions immobilières, etc., les possessions foncières. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on note après, hein, dans cette partie du premier chapitre, là, donc, hein, on a une espèce de... Premier et dans le deuxième chapitre, on a quand même une espèce de transformation oralisée. Ça implique évidemment des études particulières de texte, mais je pense qu'on l'avait déjà remarqué à certains moments, hein, qu'on sent sous l'écriture quelque chose qui est de l'ordre de l'oralité des prêches et des sermons, hein, qu'on le sent dans, voilà, une vitesse d'élocution, dans le recours à des énumérations, le recours à des changements rapides, hein, des mâts, des palans, etc. Et ça, c'est bon de savoir en tête, hein, parce que je pense que c'est un élément important d'analyse de ce texte. C'est la espèce de présence sous la langue écrite, hein, d'une langue faite pour être dite en chair. Voilà. Alors, vous voyez que là, les argumentations, hein, sont assez, assez nettes. Hein, Pourquoi faut-il penser que ce mauvais gouvernement d'un seul va être le pire ? Eh bien, toutes les raisons qu'on a déjà vues, mais également l'idée de ce gouvernement détruit tout le bien commun car il l'accapare pour lui. Hein, vous voyez cette expression. Bon, rappelons la thèse centrale. Hein, rappelons la thèse centrale. Il ben comune è il fine di ogni buon governo, è il fine di ogni buon governo. Quanto più si accosta a quello, tanto è più perfetto. Quanto più si allunga da quello, tanto è più imperfetto. E avec le gouvernement d'un seul mauvais, d'un tyran, tutto il ben comune si risolve in uno. Le résultat étant qu'il n'y a plus rien qui soit commun et que tout devient bien particulier d'un seul et de ses amis qui sont eux aussi extrêmement mauvais. Voilà. Alors, il explicite ensuite toute une série de points sur lesquels le mauvais gouvernement de peu ou le mauvais gouvernement de beaucoup, c'est pas bien, mais quand même, c'est pas aussi pire que ce pire des gouvernements qu'il vient de définir. Et il rajoute un point supplémentaire, hein, qui figurait déjà dans le titre de ce premier chapitre, massime di quello che di cittadino è fatto tiranno. Donc l'idée qu'il y a un poids supplémentaire qui vient de ce que dans une ville comme Florence, le tyran serait forcément quelqu'un qui auparavant était un citoyen et non pas un seigneur légitime. Hein? Puisque, et ça on le sait depuis le tout début du traité, et on le sait d'autant plus que c'est un des seuls cas d'utilisation du terme « regimento » dans ce trattato circa regimento e governo, hein, ab antiquo, hein, depuis bien longtemps, les Florentins ont choisi un regimento civile. Hein, et donc, on n'a que des citoyens. Donc, si on a un tyran, c'était un citoyen la veille. Donc, là, c'est pire. Évidemment, ce qui, alors, le passage est... Le passage est très clair, hein, et avvenga che il governo di uno, quando è cattivo, sia pessimo, niente di meno, è grande differenza dal governo di colui che è diventato di naturale vero signore tiranno e dal governo di colui che di cittadino è diventato tiranno. Perché da questo ne seguita molto più inconvenienti che dal primo. Alors, vous voyez bien que là, il reprend, alors là, une des grandes traditions, à la fois dans la tradition thomiste, mais aussi, et peut-être encore plus, dans la tradition juridique, il reprend les deux définitions de la tyrannie. Hein, la tyrannie ex parte tituli, hein, ou ex defecto tituli, parce que ça, à cause de l'absence de titre, qui vient du titre. Et la tyrannie ex parte exercizi, hein, la tyrannie d'exercice. Donc la tyrannie par absence de titre et la tyrannie par exercice. Là, on est... ouais. On peut être tyran de deux façons. Vous vous rappelez peut-être que quand Lorenzino de Medici écrit son apologie pour justifier le fait qu'il ait tué son cousin Alessandro de Medici, hein, il explique que c'était un tyran à double titre. Il n'avait pas le titre, hein, puisque voilà, il n'y a aucune raison que dans une cité qui précisément ab antiquo choisi le regimento civile, hein, quelqu'un dise je suis le prince. Hein, ouais. Il n'avait pas le titre et il se comportait. Hein, il se comportait. Donc, dans ses actes, comme un tyran. Alors là, les actes du tyran, on les connaît, c'est recensé, il y a des listes. Enfin bon, d'ailleurs, Savonarole fait une de ces listes là, dans le chapitre second de la malice et pessime condition du tyran. Del tyran. Ouais. Mais, alors là, il y a un point qui est très très clair, c'est que là, sans aucun doute, il fait ça. En se situant dans un espèce de petit retour vers un peu plus d'orthodoxie thomiste, hein, parce que dans le De Regimine Principum, De Regno de Saint Thomas, il y a très clairement indiqué, je vous l'énonçais déjà la semaine dernière, l'idée que on y va doucement pour se défaire des tyrans, parce que bon, d'accord, c'est pas bien les tyrans, mais ça peut être pire encore si on essaye de... voilà, le tyrannicide, c'est pas si bien que ça, ça peut provoquer plus de troubles que ça en arrange, etc. Et là, lui, il parle du tyran d'exercice. Hein, Thomas, il parle du tyran d'exercice, parce que c'est un traité pour le roi, pour formation d'un roi. Donc il dit, attention, roi, ne devenez pas un tyran, soyez un bon roi. Mais si vous devenez un tyran, et à ce moment-là, il ne s'adresse plus au roi, mais au sujet, si votre roi légitime se comporte comme un tyran, et donc est un tyran, parce que le tyran ex parte exercitis, c'est un vrai tyran, quoi. Si c'est simple, il se laisse dominer par ses passions, il s'occupe pas du bien commun mais de son bien propre, il s'occupe pas des règles divines mais des passions qui l'attirent, etc. Il commet les péchés au lieu d'éviter d'en commettre, et donc en commettant des péchés, il en fait commettre à la communauté qu'il est censé au contraire porter vers le chemin du bien. Donc là, il a beau être ex parte tituli légitime, il ne l'est pas ex parte exercizi. Vous voyez bien que c'est une façon de se remettre un peu dans l'orthodoxie thomiste que de dire, bon, au fond, là, je ne dis pas exactement comme Thomas d'Aquin, mais je parle de quelqu'un qui serait tyran parce qu'il n'aura pas le titre. Je ne parle pas du roi devenu tyran, hein, parce que il se comporte comme un tyran. Je parle d'un citoyen qui se comporte comme un tyran et qui en plus, hein, n'a pas les titres, puisque la veille, il était encore un citoyen. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point important de ce chapitre 1. Et enfin, donc, on est dans une réflexion sur le fait que il faut être très prudent, parce que dans une cité naturellement en proie à la division comme Florence, bon, il n'y a pas de doute que le governo civile est le meilleur, mais il n'est pas moins certain qu'il est fragile et donc qu'il est susceptible de laisser une place à un parcours d'un de ses citoyens vers la tyrannie. Et donc, vous avez vu, et donc il indique là clairement, hein, dans la fin de ce chapitre, que il faut qu'il y ait des punitions. Hein. Il faut qu'il y ait des punitions. Il faut qu'il y ait des lois sévères. Il faut qu'il y ait des lois très fortes. Hein. Parce que seule l'application avec rigueur de lois fortissime et sévère, hein, fortissime legge et sévère, hein, eh bien, peut éviter que les hommes mauvais, voyant que les punitions sont légères, pigliano ardire, hein, et pigliano ardire. Voilà. Donc là, il explicite ça très clairement, il faut appeler à faire une sévère justice, on reprendra ça un peu plus tard, mais là, il demande donc, rappelez-vous également qu'il s'adresse à la signorie, hein, hein, qu'il faut punire di estrema punizione, non solamente chi ne ragionasse, ma etiam chi tal cosa accenasse. E in ogni altro peccato, avere compassione a uomo, ma in questo non gli avere compassione alcuna. On a changé de ton, hein, si vous avez en tête les tout premiers sermons, ceux de fin 94, début 95, hein, non far sangue, fa misericordia, non far sangue Firenze, etc. Et là, on est vraiment punire, d'extrême punizione. Voilà. Il n'y a pas, parce que déjà, là, se dit clairement une chose qui va être reprise dans le troisième traité très, très nettement, il n'y a pas de moyen terme, soit la tyrannie l'emporte, soit c'est le gouvernement civil, un gouvernement civil qui résiste, mais pour cela, il ne faut pas hésiter à appliquer une législation rigoureuse. Alors, le deuxième chapitre est un chapitre qui fait un tableau des maux de la tyrannie. Et ce chapitre est extrêmement. C'est le plus long, hein, c'est le plus long de ce petit opuscule, enfin. Ouais. Et sans aucun doute, se mêlent deux choses dans ce tableau de la tyrannie, donc deux points qu'il faut avoir en tête. D'un côté, c'est du Thomas d'Aquin, alors là, c'est vraiment du Thomas d'Aquin strict, hein, vraiment. Je vous lirai quelques petits passages. C'est dans le livre 1, chapitre 3 ou 4, suivant les numérotations. Hein, mais bon. Et là, il n'y a vraiment pas de doute, il y a cette liste, hein, cette liste donc des péchés du tyran, le fait qu'il est attiré par les passions, le fait que. Du coup, il attire à lui tout ce qui est mauvais, le fait qu'il a en lui tous les péchés du monde, le fait qu'il donc, ayant en lui tous les péchés du monde et attirant en lui tous les mauvais, il a en horreur les bons et tout ce qu'ils peuvent faire de bon, il va les persécuter, etc. Bon, voilà, livré aux passions, tous les péchés du monde. Donc là, la liste est longue, là, évidemment, les principaux sont la superbe, il veut avoir personne supérieur à lui, la luxure, là, vraiment, tout ce qui passe à sa portée, enfin bon, voilà, épouvantable, la cupidité, parce qu'évidemment, tout ce qu'ont bien les autres, il le veut pour lui, enfin bon, voilà. Donc, du coup, les instruments de son gouvernement vont être le secret, la méfiance, le développement de la discorde entre les citoyens. L'abaissement de tous et surtout des gens de valeur, hein, puisqu'il veut pas de gens qui puissent lui être comparés. Enfin, voilà. Bah, c'est pas gay, quoi, quand on a un tyran, comme. Alors tout ça est du utopie, enfin, hein, du courant, enfin, voilà, c'est la définition du tyran. Et ça se coupe avec des éléments qui sont. Hein, on peut s'amuser, donc là on ne va pas le faire en détail, mais on pourrait s'amuser à trouver des allusions, hein, des allusions à la politique précise des Médicis, et en particulier celle de Laurent. Donc, ouais, donc. Il y a incontestablement un de l'allusif qui était perçu immédiatement par les lecteurs contemporains, hein, que nous on a un peu plus de mal à repérer précisément. Mais enfin, par exemple, en allant voir la façon dont, y compris dans un texte comme les Storie Fiorentine de Francesco Guicciardini, donc, est décrit la politique, en particulier certains des aspects, la très nette. Il n'y a rien sur la luxure et les choses comme ça chez Guichardin. Il y a des bricoles sur la luxure de. Hein, l'appétence, la luxure de Laurent le Magnifique dans le portrait que Machiavel trace de Laurent dans les Histoires Fiorentines à la toute fin. Hein, puisqu'il y a. Il dit une phrase qui du genre, si bien qu'à considérer ces deux aspects, hein, l'aspect grave et, voilà, et avisé, et de l'autre côté, cet aspect venereo, il dit, hein, la personne venere, hein, attirée par les plaisirs de l'amour, eh bien, on avait l'impression de voir deux personnes. Due persone, on avait l'impression de voir deux personnes différentes, due persone, quasi con impossibile congiunzione, congiunti. Hein? Si vedeva in lui due persone, quasi con impossibile congiunzione, congiunti. Voilà, c'est dans Histoire et Fiorentine, et c'est le dernier livre. Hein, c'est pratiquement la dernière page. Et c'est vraiment cette idée-là, des plaisirs, la passion amoureuse, la luxure, etc. Donc, ouais, mais par exemple, les stratégies matrimoniales, ça c'est un truc, il y en a des pages et des pages. Le fait qu'il était très attentif à ce que telle famille se marie pas avec telle autre parce qu'ils allaient être trop forts s'ils s'unissaient, etc. Bon, les stratégies matrimoniales, ça c'est vraiment très clair. La présence, hein, vous avez à un moment donné dans le texte l'hypothèse le rôle que jouent comme ça, les familiers, hein, les gens qui vont, voilà, les commis, hein, les commis, ceux qui vont. Et qui est important comme terme parce qu'il apparaît qu'une fois dans le texte, et un familio, ça peut être aussi un sbire, un homme armé. Vous vous rappelez que cette question des hommes armés, c'est une question fondamentale. Les citoyens, comme ils sont égaux, ils n'ont pas le droit d'être armés et leur rapport ne doit pas être régi par le fait qu'on a ou pas des armes. Et ça, précisément, Laurent obtient, alors, on peut comprendre étant donné les circonstances, mais Laurent le Magnifique obtient le droit d'avoir une garde armée, donc des familles armate, après avoir échappé à la Congiura dei Pazzi en 1478. Donc, toute une série de choses comme ça, hein, qui peuvent être trouvées dans des textes des contemporains, qui donc, probablement, hein, sont les allusions, hein, sur les détournements de fonds publics, sur l'exploitation des dissensions, ça aussi, c'est assez fréquent, sur les dépenses somptuaires, hein, qui font sur bon, sans aucun doute il y a des allusions, en fait ils veulent se servir de l'Église pour obtenir du pouvoir avec l'accession cardinala de Giovanni, le fils de Laurent, etc. Voilà. Le fait que c'est eux qui faisaient la politique extérieure de Florence, tout ça est incontestable, hein, et tout ça est présent. Néanmoins, toute une partie des choses sont présentes dans les textes de Thomas d'Aquin. Bon, voilà, je vous en lis quelques passages, hein, mais c'est donc dans chapitre 3 ou 4, hein, qui justement développe l'idée de même que dominium unius optimum est, quando est justum, hein, quand il est juste, ita oppositum eius est pessimum, hein, et il donne des raisons et arguments. Hein, voilà. Avec évidemment, si vous avez le temps d'y jeter un œil, mais y compris les argumentations, hein, la virtus unita, hein, magis est efficace ad effectum inducendum quam dispersa vel divisa. Comment cette virtu unita ou virtu divisa, c'est une des argumentations qu'on vient d'entendre. Bon. Alors, ce n'est pas seulement dans les choses corporelles que le tyran accable ses sujets, mais ils empêchent aussi leurs biens spirituels. Donc, ouais, hein, vous avez l'ensemble de l'argumentation de ce type. Ils sèment des discordes entre leurs sujets eux-mêmes, ils alimentent celles qui sont nées, ils prohibent tout ce qui tend à l'union des hommes, comme les mariages et les festins en commun. Ils s'efforcent encore d'empêcher que leurs sujets ne deviennent riches ou puissants, parce que soupçonnant les sujets d'après la conscience qu'ils ont de leur propre malice, etc., ils craignent que la puissance et les richesses de leurs sujets ne leur deviennent nuisibles. Enfin, voilà. Hein, vous voyez, toute l'argumentation, hein, même s'il trouve des allusions à la politique suivi par les Médicis, que probablement les contemporains saisissaient, sont des reprises, pour bonne partie, de la tradition description du tyran. Voilà. Qui punea, punemaita, et à la fin, donc, seria longa cosa, ça fait déjà plusieurs pages qu'il le fait, seria longa cosa, volere discorrere per tutti i peccati e mali che fa il tiranno. Hein? Donc, ouais, j'en ai dit qu'une toute petite partie. Hein? La tyrannie est le régime de l'instabilité permanente. Chaque moment engendre un mal et un péché supplémentaire contre la loi de Dieu. Et donc, hein, et ça, on est dans une ligne que le frère Jérôme n'a pas cessé d'agiter dans ses sermons. Maintenant, dans ce texte au ton de sermon, hein, qu'est ce trattato circa il reggimento e governo. Alors, on en vient au troisième chapitre de ce trattato secondo, de beni delle città ai quali il tirano impedisce, e che il governo del tirano, infra l'altra città, è massimamente nocivo alla città di Firenze. On retrouve le procédé. On va du plus général au plus particulier. Et dans le particulier, là, c'est ce qu'il avait annoncé dans le proème. Le particulier, c'est Florence. Hein? Donc, la description des maux que le tyran amène aux gens qu'il dirige, eh bien, est impressionnante et terrible pour tous. Hein, on vient d'en sortir après plusieurs pages de description des choses épouvantables que fait le tyran, eh bien, ça l'est encore plus pour Florence. Alors, notez bien là que là, on retrouve une caractéristique vraiment très, très importante de ce moment politique de Savonarole, c'est-à-dire que Florence est au cœur de ses préoccupations. C'est toujours Florence qui constitue un banc d'essai, le laboratoire particulier où tout s'exacerbe, le bien comme le mal, le bien futur comme l'éventuel mal futur. Hein? Ouais. Donc, il reprend son argumentaire, Florent, la tyrannie et le régime qui est donc très clairement celui qui s'oppose le plus au Benvivere Cristiano. Par voie de conséquence, résister au tyran, c'est d'abord vivre et agir en bon chrétien. Hein? Et alors, à Florence, nous explique Savonarole, une espèce de, hein, c'est toujours cette idée de, on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une vraie intégration d'une dialectique permanente dans la mise en place, hein, dialectique qui peut avoir presque des aspects paradoxaux, une espèce de mouvement paradoxal vers les extrêmes. À Florence, ça, c'est résister au tyran en vivant bien. C'est à la fois plus facile et plus difficile qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les Florentins sont plus enclins que tous les autres peuples au culte divin. Et la meilleure preuve, c'est que Dieu a eu pour eux une attention spéciale, une clémence spéciale. Il leur a fixé un objectif et une fonction dans la Renovatio Ecclesiae tout à fait spécifique, précisément parce que il y a cette force, hein, cette inclination vers le culte divin, mais aussi, et c'est lié, c'est-à-dire c'est l'idée que ce mouvement vers le culte divin, le bien-vivre chrétien, il vient de quelque chose qui est ingegno sottile, hein, qui se dit subtilité de l'entendement, hein, capacité d'intellect sottile. Et cet ingegno sottile, hein, eh bien, il peut aller vers le bien ou aller vers le mal. Il peut aller vers le bien et il peut aller vers le mal. Vous voyez que cette idée de... bon, elle a traversé les siècles, hein, cette idée de, des Florentins toscans ayant un ingegno sottile, vous la retrouvez encore en proverbe au XXe siècle. Hein. Évidemment, on l'a déjà vu dans des textes de Machiavel, celui précisément où il dit... Vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes subtil, vous autres, mais enfin, frère Jérôme, vous avez persuadé qu'il parlait avec Dieu, et vous en étiez persuadé, et rien ne le prouve. Hein ? Je n'en dirai pas plus. Voilà. Vous voyez ce qu'il leur dit. Vous, les subtils Florentins. Allez, un Ferrare vient, et il vous raconte qu'il parle avec Dieu, et vous dites, ah putain, il parle avec Dieu. Voilà. Hein ? Non, pas RS. Non, hein, à Fiorentini, non pas essere rozzi. Ben oui, d'accord. Sottile, mais. Donc là, il reprend cette idée. Ingegno sottile. Et voilà. Alors là, il y a un tout petit point sur lequel il faut développer une toute petite explication. Hein, même si j'ai déjà fait allusion dans le cours de la semaine dernière. Cette considération là sur l'ingegno sottile des Florentins, elle s'appuie sur une théorie des climats qui expliquerait les propensions politiques particulières des peuples. Non. Alors visiblement lui, Savonarole, il n'y a pas de doute qu'il y croit. Hein, il n'y a pas de doute qu'il y croit parce que il l'avait déjà. Énoncé, hein, il l'avait déjà énoncé très clairement dans les sermons sur Rager, et dans un sermon qui politiquement est un des plus importants, c'est celui du 14 décembre 1494, qui était fait précisément pour inciter à mettre en place la forme nouvelle du gouvernement, hein, la forme gouverne du gouvernement, et celui qui se terminait précisément par des indications sur comment on pouvait faire, hein, en regardant du côté des Vénitiens, hein, avant celui-là. Et dans ce sermon du 14 décembre, eh bien, il y a un passage, hein, il y a un passage. D'ailleurs, on n'est pas étonné. Hein, donc, il y a tout un passage où il explique la direction et le gouvernement d'un seul chef, quand ce chef est bon, est par rapport aux autres le meilleur et le plus excellent des gouvernements. Mais quand ce chef est mauvais, il n'est pas de pire gouvernement, etc. Et de pire façon de diriger, puisque le pire est l'opposé du meilleur. Et c'est pourquoi, suivant la diversité des hommes et des pays, ont été trouvées des façons différentes et variées de régir, hein, donc d'avoir un regimento. Voilà. Et il explique, là, dans les zones chaudes de cet hémisphère, les hommes sont plus pusillanimes que dans les autres lieux, parce qu'en eux, le sang n'abonde pas, et donc, en ces lieux, les gens se laissent facilement régir par un seul chef, ils lui obéissent facilement, ils lui sont volontiers assujettis. Dans les zones froides de l'Aquilon, là, où abonde le sang, etc., etc., mais dans les zones moyennes, là où est l'Italie, abonde à la fois le sang et l'entendement. Les hommes ne supportent pas d'être soumis à un seul chef. Hein, et chacun d'eux voudrait être le chef qui gouvernerait et régirait les autres et pourrait commander et ne pas être commandé. De là naissent ensuite les dissensions et les discordes parmi les citoyens des villes. Hein. Donc, c'est pas une invention ni de lui ni de la tradition seulement thomiste, c'est vraiment... Aristote, Politique, livre 7, hein, dans la 1327b, hein, en 1327b. Voilà. Donc 1327b, Les peuplades des régions froides sont pleines de cœur, mais sont plutôt dépourvues d'intelligence et d'habileté. C'est pourquoi elles vivent plutôt libres, mais ne s'organisent pas en cité et ne sont pas capables de commander à leurs voisins. Celles d'Asie, elles, ont l'âme intelligente et habile, mais sont sans courage. C'est pourquoi elles vivent dans la soumission, c'est-à-dire l'esclavage. La race des Hellènes, comme elle occupe une région intermédiaire, partage certains caractères avec les deux groupes précédents. Elle est en effet à la fois pleine de cœur et intelligente. C'est pourquoi elle mène une vie libre sous les meilleures institutions politiques et est capable de commander à tous les peuples pour peu qu'elle arrive à une organisation politique unique. Vous voyez que ça tombe bien, ça marche bien quand même. La théorie des climats, c'est bien. Quand on est grec, je veux dire. Pour les autres, ils sont mal barrés, mais quand on est grec, c'est pas mal. Donc quand on est florentin, c'est bien aussi. Mais voilà. Théorie des climats. Donc, évidemment présent aussi dans De Regimine Principum, etc. Alors, dernier point important à commenter dans ce chapitre, c'est l'idée que nuno violento può essere perpetuo. La tyrannie ne peut perdurer car rien de violent ou aucun homme violent ne peut être perpétuel. Donc, en gros, l'hypothèse, c'est que Dieu envoie les tyrans. Évidemment, tout ce qui vient, tout ce qui arrive est voulu par Dieu. Si Dieu a envoyé le tyran, c'est pour purger la cité de ses péchés. Une fois que c'est fait, le tyran passe à la trappe. À la trappe, le tyran, il tombe en enfer. Où Jarry a trouvé, où Jarry a trouvé son inspiration. Alors ça, c'est un point là aussi très nettement affirmé dans la tradition thomiste, qui apparaît très très clairement dans le De Regimini Principum, donc De Regimini Principum, livre 1, et c'est le 10 ou le 11 suivant les éditions. Donc cette idée que nuno violento può essere perpetuo, elle revient deux fois dans le chapitre 3 du livre 2, du traité 2. Elle revient à deux. C'est De Regimine Principum 1, 10. Voilà. Ou De Regno, on peut. Vous savez qu'on peut. De Regno. 10. Voilà. Le pouvoir des tyrans ne peut pas être durable. Donc je vous cite Thomas, enfin dans la traduction française, le pouvoir des tyrans, dominium tyrannorum, diuturnum esse non potest, puisqu'il est odieux à la multitude. Voilà. Car ceux qui. Alors, vous voyez, là, il y a une raison vraiment, le nuno violento può essere perpetuo, c'est pas seulement parce qu'à un moment donné, Dieu dit, allez, à la trappe le tyran, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, le grand nombre. La multitude on a assez quoi, on a assez parce qu'il est odieux, cum sit multitudini odiosum, il est odieux à la multitude, et c'est donc là la raison proprement politique du rapport entre le dirigeant et ses sujets qui est mise en évidence, et qui donc il faut lire aussi dans la formulation. Donc, je vous dis, elle est vraiment deux fois de suite à une page de distance, dans le même chapitre. Donc c'est que c'est un point important. Ouais. Donc il explique, l'occasion ne manquera pas de s'insurger contre le tyran. Dès que l'occasion se présentera, il se trouvera au moins un homme parmi la multitude pour en profiter. Voilà, le peuple accompagne de ses voeux celui qui s'insurge et ce qui est tenté avec la faveur de la multitude manquera difficilement d'aboutir. Hein, dominium tyranni, hein, vix ergo potes contingere quod tyranni dominium protendatur in longum. Hein, il est donc difficile que la domination du tyran se prolonge longtemps. Voilà. Et alors, il explicite toute une série de raisons, hein, voilà, pour lesquelles la domination du tyran, hein, la seigneurie du tyran, le pouvoir du tyran, c'est, en latin, c'est toujours dominium, hein, tyranni ou dominium, tyrannorum. Hein. Voilà. Il n'a pas l'amitié de ses sujets. Il n'a pas à réclamer la fidélité de ses sujets, et en tout cas, il n'y a aucune raison que ses sujets lui soient fidèles, puisque lui-même ne l'est pas à la fonction du bon gouvernant, du bon roi. Bon, ben. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il lui reste que la crainte, et donc là, la crainte. Hein, et en plus, d'une part, ça ne dure pas forcément tout le temps, et en plus, la crainte peut engendrer le désespoir, et le désespoir peut amener à faire des choses en se précipitant avec audace. Ouais. Conclusion de tout ce passage. Non potest igitur tyranni dominium esse diuturnum. Niuno violento può essere perpetuo. Traduit Savonarole. Hein, ouais. Bon, donc on est donc au terme de ce premier... de ce premier traité, avec hein, une réforme possible, un futur vers lequel le discours de frère, le discours, parce que là c'est pratiquement ça, hein, le traité discours de frère Jérôme projette hein, dans un avenir indéterminé, mais qui sera rédempteur, en ayant bien en tête que cet avenir... les termes n'en sont pas fixés clairement, hein, puisque tout ça, l'existence ou pas, de la vérification ou pas de cela, est liée au fait que les hommes, dans leur libre arbitre, choisissent de faire le bien et pas de faire le mal. Donc, nous nous arrêtons là pour... le commentaire du Trattato Secondo.